Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 66 concernant la série sur la prière. Nous aurons trois petits sujets. Premièrement, qu'est-ce que l'intercession? Deuxièmement, quelles sont les armées en lice? Troisièmement, quelles sont les faiblesses de Satan? Chers amis, essayez de noter, pendant que vous écoutez, si c'est possible, le plus de citations bibliques que possible. Car vous verrez que c'est important. Une bonne chose, c'est d'écouter une deuxième fois ce CD pour vraiment noter le plus de versets possible. Parce qu'il est toujours très important de pouvoir vérifier ce que vous entendez par les saintes Écritures. Le mot « intercéder » puise son origine dans les deux mots latins « inter » « entrer » et « céder » « aller ». Le verbe « intercéder » signifie donc « aller entre », « faire le médiateur » et « intervenir ». Isaïe 59, verset 16. L'intercession implique trois personnes. L'intercesseur, plaidant avec une personne à la demande de l'autre. L'intercession réunit ou va réunir deux parties. L'intercesseur ou médiateur se tient au centre et rassemble les deux parties. Dans la Bible, on parle de Jésus-Christ, notre exemple suprême, comme notre grand prêtre éminent. Hébreux chapitre 4, verset 14. Notre médiateur, c'est Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Celui qui est toujours vivant pour solliciter en notre faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Investi de ses rôles, Jésus-Christ se tient entre Dieu le Père et nous-mêmes, plaidant en faveur de notre cas. L'intercesseur se tient sur la brèche, Ézéchiel 22, verset 30. Les deux brèches sur lesquelles il doit se tenir sont, primo, la brèche entre Dieu et l'homme, et secondo, la brèche entre Satan et l'homme. Nous avons d'abord la brèche entre Dieu et l'homme. L'intercesseur prie Dieu en faveur d'une tierce personne selon les exemples bibliques. Nous allons dire Dieu, ensuite l'intercesseur, et pour terminer, l'homme. Donc, Dieu, dans la Genèse chapitre 18, versets 17 à 33, nous avons l'intercesseur qui est Abraham, et l'homme représente Sodome et Gomorre. Dieu, dans Exode chapitre 32, versets 30 à 32, l'intercesseur sera Moïse, et l'homme représente Israël. Dieu, dans Psaume, donc Dieu, dans le psaume 106, verset 23, l'intercesseur sera Moïse, et l'homme représente Israël. Dieu, dans Isaïe, chapitre 53, verset 12, l'intercesseur, c'est Jésus-Christ. L'homme représente les pécheurs. Dieu, dans Saint Jean, chapitre 17, l'intercesseur, c'est Jésus-Christ. Et l'homme est représenté par les chrétiens. Nous avons Dieu dans Romains, chapitre 8, verset 34. Et l'intercesseur, c'est Jésus-Christ. L'homme est représenté par les chrétiens. Nous avons Dieu dans Hébreux, chapitre 7, verset 25. L'intercesseur, c'est Jésus-Christ, et l'homme est représenté par les chrétiens. Dieu, dans Romains, chapitre 8, verset 26 à 27. L'intercesseur sera l'Esprit Saint, et l'homme est représenté par les chrétiens, c'est-à-dire tous les saints. Nous avons Dieu dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. L'intercesseur, c'est les chrétiens et l'homme représenté par l'humanité entière. Donc, l'intercesseur s'avance alors vers Dieu pour demander, prier, implorer à Dieu sa bénédiction et sa grâce à la demande d'une tierce personne. Je répète, l'intercesseur s'avance donc vers Dieu pour demander quoi ? Pour demander de prier, pour demander d'implorer Dieu, pour demander sa bénédiction et sa grâce à la demande d'une tierce personne. C'est ça l'intercesseur. Et lorsqu'il se tient entre Dieu et l'homme, l'intercesseur agit en qualité de prophète et de prêtre. Il représente Dieu pour l'homme et l'homme pour Dieu. La parabole de Saint-Luc chapitre 11 versets 5 à 13 décrit l'intercesseur comme la personne qui relie deux amis, l'un éprouvant un besoin et l'autre pouvant combler ce besoin. Ensuite, nous avons la brèche entre Satan et l'homme. L'intercesseur résiste à Satan, et ceci à la demande d'une tierce personne. Nous avons donc Satan, l'intercesseur et l'homme. Satan dans Daniel, chapitre 10, verset 12 à 21, l'intercesseur, c'est l'archange Michel, et l'homme, c'est Daniel. Ensuite, nous avons Satan dans Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 2. L'intercesseur, c'est le Seigneur, et l'homme, c'est Josué. Nous avons à nouveau Satan dans Saint-Luc, chapitre 22, verset 31 et 32. L'intercesseur, c'est Jésus-Christ, et l'homme, c'est l'apôtre Pierre. Nous avons à nouveau Satan dans Jude, au verset 9. Et l'intercesseur, c'est l'archange Michel. Et l'homme, c'est Moïse. Dans ce cas, l'intercesseur est impliqué dans ce combat spirituel contre les pouvoirs des ténèbres à la demande de quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il se tient entre Satan et l'homme, l'intercesseur agit comme un roi. Il dirige et règne avec Christ, et ceci sur les forces des ténèbres, puisque Dieu délègue son pouvoir et son autorité à cet effet. L'armure de Dieu, mentionnée en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, sert à engager le combat spirituel, incluant le second aspect du rôle de l'intercesseur. Il est cependant important de noter que seul ce second aspect implique le combat spirituel. Le fait d'approcher Dieu pour le besoin de quelqu'un n'inclut pas de combat, à moins que des influences sataniques soient comprises dans ce besoin. Néanmoins, il faut toujours de la persévérance pour intercéder entre Dieu et l'homme, par exemple, en Genèse chapitre 32, versets 24 à 30, lorsque Jacob, à lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'il reçoive sa bénédiction. L'intercession peut donc comprendre la prière contre un peuple diabolique, Romains chapitre 11, verset 2, et un roi, chapitre 19, verset 9 à 18. Elle peut également comprendre de ne pas du tout intercéder pour un peuple démoniaque, tel que dans Jérémie, chapitre 7, verset 16. Le plus souvent, elle implique une prière positive pour le bien du peuple, reconnaissant que la plus grande bonté envers l'homme consiste à lui prodiguer les premiers secours. En d'autres termes, lorsque l'intercesseur prie à propos de situations où le diable prédomine, il peut s'avérer nécessaire que la personne ou le peuple doive traverser une crise avant de parvenir à la tristesse qui, selon Dieu, produit en effet un repentir salutaire qu'on ne regrette pas. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, et également à la purification, à la guérison et à la délivrance. Une telle intercession inclura le combat spirituel contre les forces des pouvoirs des ténèbres engagées, ainsi que l'intercession pour la libération, oui, le pardon, et pour la bénédiction de Dieu. Notre plus grand désir, chers amis, de même de celui de Dieu, doit toujours être que l'homme soit amené au repentir, au pardon, au salut et à la délivrance. 2 Épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Ensuite, nous avons l'intercession et la supplication. La supplication nous autorise à prier pour nos propres besoins, mais pas l'intercession. La supplication permet à deux personnes de prier ensemble pour leurs besoins. On peut alors prier avec quelqu'un d'autre pour des besoins. À l'inverse, dans l'intercession, une seule personne approche Dieu à la demande d'une autre. Dans ce cas, il peut s'agir de personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas prier pour elles-mêmes. Par exemple, les personnes égarées, celles qui ont des doutes et qui ne croient pas, les ignorants, ceux qui sont possédés par le démon, ceux qui sont ligotés, etc., mais également pour ceux qui sont trop faibles. L'intercession est différente de la louange. C'est plus qu'une prière ordinaire ou qu'un simple espoir. Ce n'est pas une prière pour nous-mêmes, c'est une prière persistante impliquant souvent une lutte dans les zones spirituelles jusqu'à acquérir ou assurer la victoire. Dans un sens, pour intercéder, il faut s'identifier à la personne et à ses besoins, nous imprégner carrément jusqu'à ressentir ce qu'elle ressent et prier comme nous le ferions pour nous-mêmes si nous nous trouvions dans une situation similaire. Par contre, dans un autre sens, l'intercesseur peut être plus objectif dans ses prières et moins lié par les sentiments erronés tels que la non-croyance, la dépression, le désespoir, l'anxiété, l'amertume, etc., que la personne pour laquelle il prie. Voyez Romains, chapitre 12, verset 15, et notez également Hébreux, chapitre 2, verset 17 et 18, chapitre 4, toujours Hébreux, versets 14 à 16, et aussi le chapitre 13, verset 3. Quel est, chers amis, ou quels sont les degrés d'intercession? Les degrés d'intercession. Premièrement, nous avons le ministère de l'intercession. Certaines personnes sont spécialisées, ayant été appelées et ayant même reçu un don de Dieu pour le ministère de l'intercession. Leur principal ministère consistera donc à intercéder en faveur d'individus, de situations, de villes et même de pays. Généralement, ces personnes sont méconnues, il est vrai, car la plupart de leurs intercessions sont privées. Leur ministère de l'intercession peut nécessiter des longues périodes de jeûne à la recherche et dans l'attente de Dieu, plus souvent dans la solitude qu'au cœur d'une réunion de prière. Ces personnes apprennent à connaître Dieu et ses voies. Elles peuvent intercéder à tout moment en esprit et selon ce que Dieu nous a révélé de prier selon sa sainte volonté. Deuxièmement, nous avons l'intercession pour des besoins spécifiques. La plupart des chrétiens ne possèdent pas le ministère de l'intercession tel qu'il est décrit. Par contre, tous les chrétiens seront, à un moment ou à un autre, appelés en des temps spéciaux d'intercession, ceci pour des besoins ou des situations importantes. Et dans ce cas, l'intercession s'accompagnera souvent du jeûne, ainsi que le Seigneur l'indique. En conséquence, tous les chrétiens sont appelés à être intercesseurs, bien qu'ils n'aient pas tous reçu cet appel. Et cette fonction ou ce ministère, au sens de se dévouer principalement, oui, principalement, à leur service chrétien. Et troisièmement, nous avons l'intercession quotidienne. À moindre degré, tous les chrétiens sont impliqués, presque tous les jours, dans une sorte d'intercession faisant partie de leur prière quotidienne. Il est possible que cela prenne peu de temps au quotidien. Il est possible qu'il ne s'agisse pas d'une intercession profonde. Néanmoins, il s'agit d'une prière à la demande d'un tiers pour ses besoins. Pourquoi intercéder? Dieu nous a dit de prier, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, et 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 3. Il est même stupéfait de ne trouver parfois aucun intercesseur. Isaïe, chapitre 59, verset 16. Nous n'avons pas, parce que nous ne demandons pas, Jacques, chapitre 4, verset 2. Il arrive que certaines choses ne se produisent pas, que nous ne recevions pas certaines choses, simplement, voyez-vous, parce que nous ne demandons pas. L'intercession libère la puissance de Dieu et lui permet d'ouvrir, dans un certain cas, une nouvelle situation. Car sans Dieu, on ne peut absolument rien. Et sans nous, Dieu ne voudra pas. L'intercession nous fait devenir coéquipiers de qui ? Coéquipiers de Christ dans son ministère de l'intercession. Alors qu'il nous guide, il peut arriver que Dieu se serve de nous pour favoriser la réponse à nos propres prières. Alors, chers amis, pourquoi ne pas recourir plus souvent à l'intercession? Il y a à cela plusieurs raisons, dont plusieurs pourraient facilement être écartées. Nous sommes trop occupés. Nous refusons d'être dérangés. L'intercession n'a aucune priorité dans notre vie. Pourtant, Martin Luther, Il disait, j'ai tellement à faire aujourd'hui, il faut que je fasse et que je passe surtout plus de temps en prière, pas moins, mais plus. Nous ne sommes pas fermement convaincus du véritable effort requis par l'intercession, soit que nous manquons de foi, soit que de nos prières, peu de nos prières vont recevoir peut-être une réponse, c'est ce que nous pensons d'avance. Alors, nous pensons pouvoir agir seuls et n'avoir pas vraiment besoin de rechercher l'aide de Dieu, ce qui est une erreur. Nous sommes victimes de distractions sataniques également. Oui, croyez-moi, le diable fera tout ce qu'il peut pour interrompre nos prières. Et comment ? Il peut nous faire crouler sous une avalanche d'occupations. Il peut aussi provoquer des interruptions, susciter la lassitude, la déprime, etc. Sans compter tous les téléphones sans arrêt. Et nous manquons également, surtout, de persévérance. Ça, c'est un autre problème. La lutte nous paraît interminable ou même inégale. Et alors là, nous abandonnons. N'oubliez jamais que l'Église, c'est l'armée de Christ. L'Église, et entre autres, décrite dans la Bible comme l'armée de Dieu face à un monde hostile et ennemi. Les passages suivants, extraits des Saintes Écritures, utilisent tous la même métaphore et illustrent différentes vérités à propos du combat spirituel dans lequel nous-mêmes, en qualité de chrétiens, sommes impliqués. Dans Saint Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19, nous voyons que l'Église doit exercer le pouvoir et l'autorité dont Dieu l'a investi de manière à attaquer et détruire les portes de l'enfer. Tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel, et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. Donc, en conséquence, l'Église ne doit pas demeurer amorphe, mais non, elle doit se réveiller et elle doit utiliser le pouvoir dont Dieu l'a investi afin d'anéantir les chaînes de l'ennemi. Notez Saint Luc, chapitre 14, versets 31 et 32. Avant de préparer le combat spirituel, individuellement ou en groupe, nous devons avoir acquis l'absolue conviction que nous convaincrons l'ennemi. Oui, il n'y a aucune place pour la peur, 2 Timothée chapitre 1 verset 7, ni pour les doutes, Jacques chapitre 1 verset 6 à 8. Et si nous ressentons de la peur, si nous sommes en proie au doute, mieux vaut alors ne pas nous impliquer. En revanche, si comme David, nous sommes certains, oh oui, que Dieu est à nos côtés et que la victoire nous est acquise, alors nous avons fait le premier pas de préparation au combat. 1 Samuel chapitre 17 verset 26 à 47. Notez également 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6. Bien que les vérités spirituelles soient illustrées du vocabulaire ordinaire pour parler de l'armée, il s'agit bien d'un combat spirituel et non physique, bien qu'il y ait quelques similitudes et parallèles. Il y a également des différences et des contrastes notables entre un combat terrestre et un combat spirituel. Par exemple, les armes spirituelles et non physiques. Là, vous pouvez noter Saint Matthieu, chapitre 26, versets 47 à 53, ainsi que l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 38, et encore le verset 47 à 51, toujours dans l'évangile de Saint-Luc. Il y a les ennemis, ennemis constitués de pouvoirs et de principautés démoniaques appartenant carrément au royaume de Satan. Là, notez Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Jésus-Christ a désarmé les pouvoirs et les principautés des démoniaques sur la croix, rappelez-vous, et il a fait de cela un exemple public et il a remporté la victoire. Quel que soit le pouvoir ou l'autorité que le diable exerce aujourd'hui, il l'usurpe et l'exerce selon une permission et non par un droit. Le diable ira toujours aussi loin que nous le lui permettons. Il lui est impossible d'aller au-delà, mais il n'ira évidemment jamais en deçà. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4 verset 7. Jésus-Christ étant vainqueur, nous le sommes également par lui. Par conséquent, ne permettons pas au diable de prendre ce qui ne lui appartient pas. Il nous le dit. Si nous lui disons par exemple « va jusqu'ici et ne va surtout pas plus loin », alors il ne peut pas aller au-delà de la limite qui lui est imposée. Ainsi, l'Église, elle est investie, rappelez-vous, par Christ, du pouvoir et de l'autorité, et elle détermine jusqu'à quel point le diable est libre d'œuvrer dans le monde. Le diable tentera d'égarer, de falsifier, d'usurper, ou de voler notre héritage. Ne vous laissez surtout pas égarer. Le diable, souvenez-vous, est un menteur. C'est un assassin, un voleur, un subterfuge et un accusateur. Saint Jean chapitre 8 verset 44 ainsi que le chapitre 10, verset 10, sans compter Apocalypse, chapitre 12, verset 9 à 10. Faites bien attention et n'ayez pas peur de lui. Ne l'écoutez pas, ne vous laissez pas abuser par lui. Ne lui permettez pas de se saisir de la victoire que vous possédez en Christ Jésus, de cette victoire acquise par sa mort triomphante, ou cela sur la croix, par sa victorieuse résurrection et par son ascension glorieuse. Notez Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Nous avons besoin d'armes spirituelles pour mener le combat spirituel. Nous avons besoin de l'armure de Dieu. Une chose est certaine, jamais nous ne résisterons à l'aide, jamais à l'aide de nos propres forces. Non, ne comptez pas trop sur vos propres forces ou de nos propres armes ou de notre propre sagesse. Seules les armes fournies par Dieu permettent la victoire, selon 1 Samuel, chapitre 17, versets 38 à 40, ainsi que le verset 45. Chers amis, il y a quatre armes défensive. Ce sont la vérité, la justice, la foi et le salut. Il y a trois armes offensives qui sont l'évangile, les chaussures servant à avancer, non pas à fuir. Il y a la parole de Dieu et il y a la prière dans l'Esprit Saint. Or l'assurance de notre salut, de notre foi en Dieu, de notre justice en Christ, ainsi que la vérité, nous permettent de résister à toute offensive ennemie. D'autre part, la prédication de l'Évangile, l'utilisation de la parole de Dieu, selon saint Matthieu 4, verset 4, verset 7 et le verset 10, et l'intercession inspirée par l'Esprit Saint, anéantiront les portes de l'enfer. Nos principaux assauts contre le royaume des ténèbres s'effectueront par les moyens de l'intercession, de l'évangélisation, de la prédication de la parole de Dieu, de la délivrance et de toutes autres œuvres comme des interventions publiques en faveur de la justice soutenues par la prière, l'enseignement et les principes de la Bible. Selon Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 17 ainsi que le chapitre 19 versets 11 à 21, nous avons d'ores et déjà une certitude. Si nous sommes du côté de Dieu, nous sommes du côté de la victoire. L'ennemi a été et sera renversé. La victoire appartient au Seigneur notre Dieu. Par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, les mots confessés de nos propres lèvres nous permettent aujourd'hui d'être en mesure de renverser l'ennemi. Nous avons avec nous, qui ça, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ainsi que les armées des cieux, ne pas oublier, et c'est pourquoi nous n'avons aucune raison d'avoir peur ou d'émettre le moindre doute. Si nous connaissons vraiment notre Dieu, nous pouvons nous lancer dans la lutte avec la certitude de la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quels étaient, par exemple, les types de combats dans l'Ancien Testament ? L'Ancien Testament relate de nombreuses luttes, tant sur le plan physique que spirituel. Les combats physiques renferment également des leçons spirituelles par lesquelles nous pouvons beaucoup apprendre. Dans la vision d'Ézéchiel de la vallée remplie d'ossements desséchés, Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10, lorsque les eaux se sont rassemblées et ont reçu le souffle de vie, ils reprirent vie et ils se dressèrent sur leurs pieds. Il y avait là une très grande, une immense armée. C'est Joël, chapitre 4, versets 9 à 10, qui nous dit « Criez ceci parmi les nations, engagez saintement le combat, réveillez les braves, qu'ils s'avancent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. » De vos socs, forgez des glaives, et de vos serpes, des piques, et que l'infirme dise « Je suis un brave ». Deuxièmement, quelles sont les armées en lice ? Nous avons le Seigneur et son armée. Nous ne sommes prêts, oui, pour le combat spirituel, et ceci que si nous sommes absolument convaincus, convaincus de l'autorité suprême et du pouvoir de notre Seigneur sur tout autre pouvoir de l'univers. Le Seigneur est notre Dieu et notre roi. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur est désigné comme primo, le Seigneur des armées. 1 Samuel, chapitre 17, versets 41 à 47. Secondo, le Seigneur, afin qu'au nom de Jésus, tout genou plie, et ceci dans les cieux et sur la terre, et même sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Oui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. L'Ancien Testament donne sept appellations à Dieu, porteuses d'une grande confiance si nous le considérons comme notre capitaine et notre roi. Jéhovah, le Seigneur est là, est notre fournisseur, c'est notre soutien, c'est notre bannière et notre paix, c'est notre justice, c'est notre sanctificateur et même il est notre berger. Lui-même l'a du reste déclaré, « Je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai, de sorte que nous pouvons dire avec hardiesse, « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme ?» Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Nous pouvons donc entrer dans le combat en toute confiance, dans la moindre appréhension, sans aucune appréhension, et en étant certain de notre victoire, puisque il se tient à nos côtés, alors la victoire est assurée. Dieu est donc un Dieu également guerrier. Et oui, ça va vous surprendre. Il y a qu'une minorité de chrétiens, évidemment, qui sont d'accord avec ça. Mais la majorité n'aime pas beaucoup entendre une chose pareille. Nous, nous complaisons à penser que Dieu est un Dieu d'amour, un Père Noël, ce qui est vrai en quelque sorte, mais il est aussi un Dieu guerrier. Ça n'est qu'une partie de son caractère. Il est également un Dieu de fureur, de jugement. Il est également un Dieu terrible et effrayant. Par exemple, il ne faut jamais avoir peur de s'humilier. Et je dois vous dire que s'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, donc sous la dispensation de la loi, en ce qui me concerne, eh bien, Dieu, en appliquant la loi, eh bien, j'aurais eu aucune chance, 100% condamné à mort et à l'enfer. Et c'est uniquement par la grâce et l'extraordinaire miséricorde de Jésus-Christ, par son précieux sang qu'il a versé pour me racheter, que je sais maintenant à 100% que je lui dois absolument tout. Ne jamais avoir peur de dire quelques vérités désagréables sur sa propre personne quand c'est nécessaire. Nous n'aimons pas imaginer tout cela ainsi. Nous devons pourtant posséder un véritable concept de Dieu plutôt qu'une image simplement sentimentale et irréelle et partielle de notre Dieu. Lisez par exemple Exode chapitre 15 versets 1 à 12 ainsi que Apocalypse chapitre 19 versets 17 à 20. Nous représentons souvent le Seigneur en pleine gloire, hein, puissance et majesté. Le Seigneur a pour but de détruire ses ennemis, non pas les hommes et femmes primaires, mais les pouvoirs démoniaques qui les influencent et les corrompent. Dieu cherche des guerriers pour ce combat-là, qui luttent à ses côtés. Dieu nous réserve du travail. Une partie est constituée de construction et de plantation, mais nous devons auparavant arracher, abattre, perdre et démolir tout ce qui est démoniaque. Nous devons préparer le terrain par tout ce que nous pouvons avant de semer et de pouvoir bâtir. Jérémie 1, chapitre 9 à 10. Chers amis, sommes-nous prêts vraiment à combattre? Je vous le demande. Dans l'armée du Seigneur, Jésus-Christ est le chef de l'armée du Seigneur des armées. Il est aussi notre protecteur au temps de la bataille. Deux tiers des anges se tiennent à nos côtés, Apocalypse 12, versets 7 à 12. Tous les chrétiens nés de nouveau, tous ceux qu'il a investis de son pouvoir et de son autorité sur l'ennemi, Saint Luc chapitre 10, versets 17 à 19, sont également du nombre. Nous dirigeons et dirigerons et nous régnerons avec lui dans les cieux célestes. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Après avoir créé l'homme, Dieu a d'abord commandé que celui-ci domine sur toute la terre et tout ce qui la remplit et qu'il la soumette. Genèse chapitre 1 verset 26 à 31. En qualité d'enfant de Dieu, nous avons donc autorité sur l'ensemble de la création de Dieu. Nous dirigerons et nous régnerons avec Christ sur toutes les nations de la terre. Vous pouvez noter Psaume chapitre 2 verset 8. Ainsi, toujours dans les Psaumes, chapitre 33 verset 10, chapitre 47 verset 3, chapitre 110 verset 2 et 3 et chapitre 115 verset 16. Ensuite, notez également Saint Matthieu chapitre 28, verset 18, et Apocalypse, chapitre 2, verset 26. Nous sommes là, non pas pour lire l'histoire, mais nous sommes là pour la faire. Ça change tout. Le ministère des anges de Dieu se réfère aux anges de Dieu, l'armée céleste des messagers de Dieu. Ce sont les serviteurs parfaits de Dieu qui transmettent ses messages et ses ministères aux saints. Hébreux chapitre 1, versets 13 et 14. Il est fait mention des anges plus de 300 fois dans la parole de Dieu. Bien que leur nombre exact ne soit pas précisé, Apocalypse 5, verset 11 indique tout de même qu'il en existe plusieurs centaines de millions. D'autre part, Jésus-Christ aurait pu appeler plus de 12 légions, donc 72 000 anges, à sa rescousse, et ceci dans le jardin de Gethsémani, s'il l'avait bien voulu. Les anges, ils exercent des ministères dont les suivants concerne également notre sujet. Primo, les anges font partie de l'armée de Dieu. Genèse 32, versets 1 et 2. Deuxièmement, les anges protègent les saints. Psaume 34, verset 7. Ainsi que Psaume 91, 91, versets 11 et 12. Sans compter Daniel, chapitre 6, verset 22, et on peut noter encore 2 Rois, chapitre 6, verset 14 à 17. Troisièmement, les anges combattent pour nous. Ils combattent dans le combat spirituel de l'intercession. Notez Daniel au chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Quatrièmement, les anges nous délivre en temps de trouble. Actes des apôtres, chapitre 12, verset 5 jusqu'au verset 11. Et cinquièmement, les anges exécutent le jugement de Dieu sur le péché et sur ses ennemis. Exode 12, verset 21 à 30, 2 Rois 19, verset 35, et Saint Matthieu, chapitre 13, versets 41 et 42. Remarquez qu'il y a différents grades d'anges, partant de l'archange Michel à Gabriel, l'un des anges principaux de Dieu, jusqu'aux autres anges, les séraphins, les chérubins, etc. Mais n'oublions jamais qu'il y a également Satan et son armée. Et oui, l'un des principes fondamentaux du combat est de bien connaître son ennemi. C'est de connaître ses forces, ses faiblesses et ses tactiques. Et aussi les raisons pour lesquelles nous ne voulons et ne devons pas surestimer Satan et ses légions. Par contre, leur méconnaissance causera notre défaite alors que nous aurions pu sortir vainqueurs. Après avoir étudié la composition de l'armée du Seigneur, voyons un peu celle de l'ennemi. On trouve tout d'abord Satan, le dieu de ce monde. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. C'est le chef de ce monde. Jean chapitre 12 verset 31. C'est le chef du pouvoir de l'air. Éphésiens chapitre 2 verset 2. Qui est à la tête de l'armée ennemie. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, y fait référence sous les applications suivantes. Ils appellent cela le grand dragon, l'antique serpent, le diable et le Satan, celui qui égare le monde entier. C'est l'accusateur de nos frères. Remarquez cependant que Satan est appelé prince, mais il n'est jamais appelé roi. En outre, l'appellation unique de Satan, qui est l'adversaire, implique une multitude de diables, de démons et d'esprits mauvais. Ensuite, il y a un tiers des anges, n'oublions jamais, qui sont les anges déchus ou les diables. Et Apocalypse 12, verset 4 y fait référence lorsqu'il parle du tiers des étoiles du ciel. Le monde constitue le dernier élément constituant l'armée de Satan, c'est-à-dire tous les non-chrétiens. Et oui, 1 Jean, premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 19. Les enfants du diable, Saint Jean, chapitre 8, verset 44, y compris les principautés, les pouvoirs, les souverains de ce monde de ténèbres et les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Colossiens fait également référence au trône, c'est les royaumes ou les seigneuries, les régions dirigées par les princes des démons qui sont au pouvoir sur les villes. Éphésiens chapitre 6 verset 12 parle des principautés, des pouvoirs gouvernementaux, des souverains, oui, ceux qui détiennent l'autorité internationale et des esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Ce sont les démons, les diables, les esprits mauvais. Et dans le monde spirituel, on trouve le même système hiérarchique de pouvoir que dans notre monde terrestre. Quelles sont donc les origines et la nature de Satan? On trouve peu de récits dans la Bible à propos de l'origine de Satan. Cependant, Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 19, Isaïe, chapitre 14, verset 12 à 15, Saint Luc, chapitre 10, verset 18, et Révélation, donc Apocalypse, chapitre 12, verset 7 à 12, semblent indiquer qu'il était un des anges principaux créés par Dieu. Mais par fierté et par esprit de rébellion, il a tenté de se hisser à l'auteur de Dieu, ce qui a provoqué son expulsion. Il a été jeté des cieux sur la terre, entraînant avec lui un tiers des anges qui s'étaient également rebellés. Rares sont les chrétiens qui affrontent Satan directement. Par contre, nous sommes souvent victimes des attaques et des tentations de diables, donc des démons, qui sont des associés et qui sont ses serviteurs. La nature de Satan est décrite du reste dans la Bible de trois façons. Premièrement, c'est un lion rugissant. Premier épître de Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Et lorsque l'ennemi attaque comme un lion rugissant, il attaque ouvertement. Et dans ce cas, tout chrétien sait clairement qu'il s'agit d'une attaque satanique. Il tentera de nous pousser au péché, il nous intimidera et il nous fera même peur. Deuxièmement, c'est un loup qui est déguisé en agneau. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 15 et 16. Et dans ce cas, il approche sous couvert d'un déguisement trompeur, menteur, fourbe, tordu. Mais ses fruits le découvriront particulièrement lorsque il vise à voler, à tuer ou à anéantir. Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Et troisièmement, c'est un ange de lumière, n'oublions pas. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15. Cette forme d'égarement requiert le don de discernement pour être capable de dévoiler sa véritable identité. Quelles sont les faiblesses de Satan? Heureusement pour nous qu'il y en a. Satan est un ange déchu. Il s'est rebellé contre Dieu et il a été expulsé des cieux. Il usurpe l'autorité de toutes les manières possibles, mais il ne peut en aucun cas aller au-delà des limites que nous lui fixons. Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15, nous dit que si nous nous repentons et que nous confessons tous nos péchés, alors Dieu pardonnera tous nos débordements. Ainsi, l'ennemi n'a plus de sujet d'accusation ou de condamnation. D'autre part, Jésus-Christ a désarmé les principautés et les pouvoirs de sorte que les seules armes qui leur restent sont les mensonges, l'égarement, l'angoisse et les tentatives d'usurpation de l'autorité. Et c'est pourquoi, chers amis, tenons ferme contre les manœuvres du diable. C'est ce qui nous est dit du reste dans Éphésiens au chapitre 6, verset 11. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira, il va fuir loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Avant de terminer par la prière, sachez que nous pouvons avoir la victoire. Eh oui, notre victoire dépend de notre connaissance et de notre utilisation de ce que Dieu nous a donné afin que nous soyons victorieux. Voyons cela. Premièrement, il y a la croix de Christ, Colossiens chapitre 2, verset 15. Deuxièmement, il y a le sang de l'agneau, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Troisièmement, il y a l'armure de Dieu, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Quatrièmement, il y a le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 18. Cinquièmement, il y a la parole de Dieu, Saint Matthieu 4, versets 1 à 11, ainsi que Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Sixièmement, il y a le pouvoir de l'Esprit Saint, Saint Luc, chapitre 24, verset 49 et Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et septièmement, nous avons la confession de notre foi, selon Romains, chapitre 10, verset 9 à 17. Chers amis, nous pouvons donc terminer maintenant par la prière. Et je voudrais vous dire un ancien cantique, les strophes d'un ancien cantique. Hosanna, béni soit ce sauveur débonnaire qui vers nous, plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient du haut des cieux, apporter aux humains un salut glorieux. Hosanna, béni soit Jésus-Christ notre justice. Pour nous, pour nos péchés, il s'offre en sacrifice. Ce Seigneur tout-puissant, ce roi de tous les rois, pour nous, pauvres pécheurs, vient mourir sur la croix. Prions. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Ô notre Dieu, que ce saint cantique des anges retentisse dès le matin de cette journée jusqu'au fond de nos cœurs et que ce jour soit pour nous un jour de bénédiction et de joie véritable. Nous te bénissons de ce qu'en tout lieu le souvenir de la naissance de notre Sauveur est aujourd'hui célébré. Fais, Seigneur, qu'il soit à ta gloire et dans un sentiment d'adoration, que nous te célébrions par nos cantiques, par nos actions de grâce, par nos louanges, et que nous te célébrions non seulement aujourd'hui, mais pendant notre vie tout entière. Oui, donne-nous d'être fidèles à proclamer cette grande joie qui est pour tout le peuple, pour tous ceux qui veulent accepter de toi et adorer avec les bergers et les mages comme leur Dieu sauveur, le divin enfant couché dans une crèche. Seigneur Jésus, sois notre modèle en toutes choses. Apprends-nous à vivre comme tu as vécu, à être occupé des affaires de notre Père, c'est-à-dire à être occupé de la gloire de ton saint nom et du salut des pécheurs. Que ce jour soit un jour de nouvelle naissance pour un grand nombre. Ô viens te révéler à eux et naître dans leur cœur par la puissance de ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent dire « Mes yeux ont vraiment vu ton salut. Nous te le demandons pour l'amour de ton Saint-Nom. » Amen. Et chers amis, encore une fois, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et merci surtout pour tout l'amour que vous recevez, que vous allez recevoir, pas seulement maintenant, mais encore par toutes ces études qui vont suivre, car il y en a encore beaucoup. Et oui, eh bien, à bientôt à nouveau, et que soyez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.